Bonjour à chacun. Jean-Luc, après, je peux commencer déjà l'introduction de mon message. C'est vrai que quand on prépare un message à porter à l'Église, c'est toujours un temps particulier parce que on peut avoir des textes qu'on chérit particulièrement, on peut avoir, comme je partageais avec Robert ce matin, hein, parfois il y a des pensées qui viennent et puis qui disent « Mais tiens, est-ce que tu n'as pas une petite marotte là ?» Puis à chaque fois, tu reviens sur les mêmes choses. Et c'est vraiment la prière de mon cœur quand je prépare un message, c'est de dire « Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu pour, comme nourriture pour ma propre vie, mais aussi pour mes frères et sœurs ?» Et je vous avouerai que ça a été un combat particulier sur ce message. Le Seigneur avait mis, dans le courant de cette semaine, deux textes sur mon cœur. Et puis à partir de deux textes, ben quand on commence à coucher un petit peu les choses, ça a été des pensées qui venaient, des découragements et des interrogations. Mais est-ce que tu ne racontes pas toujours la même chose à chaque fois que tu prêches? Et vraiment, je pense, un combat spirituel. Et je suis réjoui. Je suis vraiment réjoui de voir comment le Seigneur et le Saint-Esprit ce matin a conduit les choses, parce que au travers des différentes interventions, que ce soit dans les échanges que j'ai pu avoir avec Robert ce matin, que ce soit l'introduction de Jean-Luc qui disait « Dieu est le même, il ne change pas, ce qui était vrai avant est vrai aujourd'hui » et tout ça, je retrouve ce que Serge a porté dans ce que le Seigneur a mis sur son cœur. Recherchons la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et puisque notre frère a apporté... Il a apporté un verset qui, dans ma prédication, et vraiment, ça réjouit mon cœur. Ça réjouit mon cœur parce que je me suis dit « Merci Seigneur, merci Seigneur ». Alors, c'est peut-être des choses que vous allez trouver peut-être simples, peut-être. Mais je me dis souvent dans ma propre vie, commence par appliquer ce qui est simple. Et puis après, pour comprendre ce qui est plus compliqué, on prend son temps. Mais essayons déjà d'être dans la pratique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est quelque chose qui, moi, m'interpelle souvent. Beaucoup de nos chants de louanges nous font proclamer que Jésus est notre maître, que Jésus est Seigneur. Et on chante souvent « Jésus est Seigneur, Jésus est mon maître, je te donne tout ». Et ce sont de très beaux chants de louanges. Et je me suis souvent posé cette question alors que je chante ces chants. Au-delà des mots, quel sens ça a réellement dans ma vie? Et le premier texte que je voulais partager, qui sera une introduction à mon message, c'est ce verset 21 du chapitre 7 de Matthieu. Matthieu, chapitre 7, verset 21. On a chanté aussi ce magnifique chant ce matin, « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit, en vérité ». Et je pense qu'on peut avoir parfois un décalage entre ce que nos mots expriment et ce que notre vie exprime, ce que nos cœurs sont réellement devant Dieu. Et donc, Matthieu, chapitre 7, verset 21, il nous est dit ceci. « Ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Je vais le relire une deuxième fois. Il est court, mais je pense qu'il est, lourd de sens. « Ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père » qui est dans les cieux. Et là, je remarque deux choses. Il y a ceux qui disent et il y a ceux qui font. Il y a ceux qui disent, qui proclament « Seigneur, Seigneur » et il y a celui qui fait la volonté du Père. Et les paroles sont parfois bien différentes des actes et on constate que bien souvent, Jésus a insisté sur l'importance d'accomplir la volonté de Dieu. Il l'a dit lui-même sur sa mission terrestre. Il est venu accomplir la volonté du Père. Et l'enjeu est important puisqu'il est clairement question ici de notre entrée dans le royaume des cieux et de notre salut éternel. Alors, pour bien repréciser les choses et qu'il n'y ait pas de confusion, ce n'est pas pour autant que nous pouvons gagner ou mériter notre salut par nos propres efforts, par nos œuvres accomplies. Moi, j'ai cherché, j'ai fait la volonté et je vais toujours plus chercher à faire la volonté de Dieu. Donc, je vais entrer dans le ciel, dans le royaume des cieux. Nous recevons le salut par la repentance. La repentance, c'est reconnaître que nous sommes pécheurs, nous sommes séparés de Dieu, nous sommes dans la rébellion, nous avons tourné le dos à Dieu et nous sommes pécheurs, mais en acceptant le salut par grâce en Jésus-Christ, alors nous sommes sauvés. Et le salut ne change pas C'est ça, c'est la repentance, c'est l'acceptation de l'œuvre de Jésus à la croix pour nos vies. Mais une fois le salut acquis, ça ne veut pas dire tout est fait. Et Serge rappelait dans ce texte que le Saint-Esprit a mis sur son cœur, recherchons la sanctification. Alors oui, à la conversion, le Seigneur nous purifie de tout péché. Il nous est, et c'est clair, la Bible est claire. Il ôte le péché, il nous justifie, il nous rend purs devant Dieu. Et pourtant, il nous est dit, recherchons la sanctification. Ça veut dire qu'au moment de la repentance, au moment du salut, il y a une chose qui doit suivre, qui doit être un changement radical dans nos vies, c'est une conversion. Une conversion, c'est quoi ? C'est j'ai compris que j'étais pécheur, j'ai compris que j'ai reçu le salut en Jésus-Christ, mais ma vie, quelle orientation elle prend ? Est-ce que je continue à marcher dans les voies où j'étais, à pratiquer ce que je pratiquais, ou est-ce qu'il y a un changement radical qui s'opère ? Et cette conversion, c'est un revirement de situation, c'est un demi-tour, c'est vraiment je prends une autre direction parce que j'ai compris que je dois mettre de l'ordre dans ma vie, j'ai compris qu'il y a un avant, il y a un après, et les choses ne seront plus pareilles dès l'instant où j'étais éclairé par Dieu, par le Saint-Esprit sur mon péché. Je me souviens de ce témoignage d'un frère dans une église où nous étions en Normandie. Et ce frère, avant de connaître le Seigneur, avait la main un petit peu chapardeuse. Hein. Maintenant, on dit kleptomane, hein, ça devient presque une maladie, hein, on n'y est pour rien, c'est pas de ma faute. Et puis au fil des années, il avait embarqué chez lui des outils. Une fois un outil aujourd'hui, et puis quand il s'est converti, le Seigneur lui a montré sa situation. Et il s'est retrouvé devant une situation où il dit « mince, qu'est-ce que je fais ?» Alors on pourrait dire, certains diraient « ouais, il y a prescription, c'était avant, c'est… » Non. Moi je crois que quand le Saint-Esprit montre des choses… Alors, il ne savait pas trop comment faire. Quand on vient de découvrir l'Évangile, on ne sait pas forcément. Il a été voir son pasteur, il en a parlé. Et il a pris rendez-vous avec son patron, avec son pasteur qui l'a accompagné. Et puis, il a dit, voilà ce qui s'est passé dans ma vie. Voilà, il y a eu un changement. J'ai rencontré Dieu, il a changé ma vie. Voilà ce qui s'est passé pendant des années. J'étais un voleur et je vous ramène ce que je vous ai volé. Et c'était un témoignage extraordinaire. Ça ne veut pas dire que le patron s'est converti. Mais lui, devant Dieu... Il a accompli ce qu'il devait accomplir. Et cette conversion, elle doit engendrer des mises en règle derrière. Parfois, les choses, on peut les régler, parfois, on ne peut pas les régler. Mais moi, je suis certain d'une chose, c'est que quand le Saint-Esprit nous révèle les choses, ça veut dire qu'on a moyen de les régler. Et Dieu ne nous appelle pas à suivre une sorte de psychanalyse spirituelle en allant fouiller, en allant chercher, en se disant « est-ce que peut-être… » Soyons simples. Quand le Saint-Esprit nous révèle une chose et nous le met dans la pensée quelque chose, alors ne commençons pas à tourner en rond, à dire « oui, mais il y avait telle circonstance atténuante, il y avait… » Non, Seigneur, tu parles à mon cœur, alors je veux t'obéir. Je ne veux pas être dans ceux qui disent, je veux être dans ceux qui font. Alors montre-moi cette situation, si je dois la régler, si je dois demander un pardon, si je dois restituer, si je dois rectifier des choses, alors ce sont des choses que nous sommes appelés à faire. Nous sommes appelés à conserver le salut par une vie en conformité avec la volonté de Dieu. Nous devons marcher en disciples de Jésus-Christ. Et j'aime à dire, c'est peut-être un peu simple, mais après tout, j'aime à dire que ce n'est pas une option. C'est une nouvelle règle de vie. Parce que Dieu ne laisse pas le choix. Tu veux être mon disciple, alors suis-moi, accomplis ma volonté. Ce n'est pas, oui, ben, j'ai reçu le salut, c'est bien, c'est super, et puis je vis un petit peu ma vie comme je fais. Nous changeons de royaume, nous passons du royaume des ténèbres dans le royaume de lumière. Et dans le royaume de Christ, les choses ne sont plus pareilles, les règles ne sont plus pareilles, et nous sommes amenés à vivre dans ce nouveau royaume. Celui-là seul qui fait la volonté de Dieu entrera dans le royaume des cieux. Alors, tout va résider à trouver quelle est la volonté de Dieu. Hein ? Peut-être que certains se disent, on en a bien quelques idées, mais une fois de plus, qu'est-ce que le Seigneur me demande ? Eh bien, je voudrais qu'on lise ensemble dans le livre du prophète Michée, au chapitre 6. Michée au chapitre 6. Alors, la volonté de Dieu, hein, je pense qu'il faudrait des semaines et des mois pour en parler. Moi, j'ai retenu... à partir d'un texte, quelques éléments ce matin. Et une fois de plus, je me dis que si je les applique et si je m'y attache dans ma propre vie, alors j'aurai déjà franchi un cap et puis le Seigneur me montrera au fur et à mesure quelle est sa volonté pour ma vie. Michée, donc le prophète Michée au chapitre 6 et au verset 8. Et là, je rejoins ce que Jean-Luc disait ce matin qui a parlé à mon cœur parce que c'est vrai qu'on dit souvent « Dieu est le même, il ne change pas, il est éternellement », ce qui était vrai pour le peuple d'Israël est vrai pour nous aujourd'hui. Et quand on voit comment le Seigneur a conduit le peuple d'Israël, l'a libéré de l'esclavage, l'a fait sortir d'Égypte, et le nombre de fois où le peuple s'est détourné de Dieu, en adorant les idoles, en tombant dans toutes sortes de magouilles, de malhonnêteté, de choses qui n'étaient pas de Dieu, lui, Dieu, il est le même. Ce qu'il n'acceptait pas à l'époque du temps d'Israël, il n'accepte pas plus aujourd'hui. Ce n'est pas parce que nous sommes sauvés par grâce que nous pouvons faire tout et n'importe quoi. Et Dieu est un Dieu jaloux. Moi, ça m'a toujours un petit peu interpellé, ça, parce que la jalousie, nous, telle qu'on la perçoit dans nos vies, c'est on dit aux enfants, la jalousie est un vilain défaut. Mais Dieu n'a pas de défaut, Dieu est parfait. Et il nous est dit que Dieu est un Dieu jaloux. Et là encore, si nous disons qu'il est notre Seigneur, alors nous devons le suivre et l'adorer lui seul. Et nous ne pouvons pas avoir de compromis. Et cette exigence qu'il avait avec le peuple d'Israël, il a la même avec nous aujourd'hui. Alors que nous sommes sous le temps de la grâce, tout est par grâce. Mais ce n'est pas pour autant que nous devons en faire n'importe quoi. Alors, ce qu'on va aborder ce matin ne doit pas venir peser comme une condamnation sur nos vies. Je voudrais vraiment aussi que ces choses-là, nous puissions nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Parce que ça n'est pas toujours facile pour celui qui prêche, pour celui qui reçoit, pour ma propre vie, d'entendre la parole me reprendre. Mais c'est de dire, Seigneur, oui, c'est ton plan. Alors si tu dois révéler des choses qui sont désagréables, je ne veux pas que ce soit quelque chose de pesant qui vienne condamner ma vie, mais au contraire, que ce soit ta lumière qui éclaire et que les choses puissent être réglées. Je reviens à mon texte, Michée au chapitre 6 et au verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et je me permettrai de rajouter, on t'a fait connaître, ô femme, ce qui est bien. Hein, parce que ce serait un peu trop facile que ce soit pour les hommes. Moi, je pense que c'est également pour les femmes. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce qu'est l'Éternel demande de toi, trois choses. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Pour les gens du monde qui vivent sans Dieu, la frontière entre le bien et le mal, elle devient de plus en plus floue, voire souvent inexistante. C'est-à-dire que voilà, on appelle ce qui est bien, on l'appelle mal, ce qui est mal, on l'appelle bien, il y a une confusion. Mais quand Dieu entre dans un cœur et quand il fait la lumière, je le disais, quand une vie est transformée, la notion du bien et la notion du mal, elle prend tout son sens. Et là, on commence même peut-être, si c'est des choses qu'on pratiquait avant, quand le Saint-Esprit éclaire nos vies, alors le mal est mis en évidence et on se rend compte que cette pratique était mal. Et j'ai choisi quelques textes. Le psaume chapitre 34, verset 15 nous dit « Éloigne-toi du mal et fais le bien ». Le psaume 37, verset 27 nous dit « Détourne-toi du mal ». Et puis, on pourrait en trouver encore beaucoup. Il y a l'apôtre Jean dans sa troisième épître, au chapitre 1er, au verset 11. « Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien ». Et quand on regarde à l'époque de Michée, qui était prophète de Dieu, la pratique du mal avait pris le dessus sur le bien. Et quand on lit un petit peu plus loin, on peut lire ensemble, donc toujours au chapitre 6, les versets 10 à 12, Michée dit ceci, et là encore une petite précision, le prophète ne s'adresse pas au peuple ennemi de Dieu, il s'adresse au peuple choisi, au peuple d'Israël. Et quand on va lire ce qui suit, c'était franchement pas glorieux. Et il dit ceci, « Y a-t-il encore dans la maison du méchant des trésors iniques ?» Et un épha trop petit, objet de malédiction, est-on pur avec des balances fausses et avec de faux poids dans le sac? Ses riches sont pleins de violence, ses habitants profèrent le mensonge, et leur langue n'est que tromperie dans leur bouche. Le méchant a dans sa maison des trésors iniques. Des trésors iniques, c'est des choses qui sont je dirais, des biens mal acquis, on pourrait appeler ça du recel ou carrément du vol, des choses qui ont été détournées, des biens injustement acquis. Et certains, voilà, peut-être de par leur fonction, avaient chapardé un petit peu et se retrouvaient avec des trésors dans leur maison qui ne leur appartenaient pas. L'EFA trop petit. Alors, l'EFA trop petit, ça m'a un petit peu interrogé, l'EFA trop petit. Et en fait, l'EFA, c'était une mesure qui servait à mesurer la contenance, notamment plus pour des solides, c'est-à-dire du blé, des céréales. Donc, il y avait aujourd'hui, quand on fait de la cuisine, on a un verre doseur pour mesurer un litre de lait, un demi-litre. Enfin, et dans le commerce, encore aujourd'hui, on mesure en kilos ou on mesure en unités. Et donc, l'EFA était une unité de mesure qui faisait environ 35 litres. Et il y en a qui avaient des EFA trop petits. Alors aujourd'hui, c'est assez facile parce que les mesures, elles sont faites à la chaîne en plastique. Donc, on sait que notre godet d'un litre, il fait un litre. On sait que quand on prend du carburant à la pompe, c'est calibré. Mais à l'époque, les instruments étaient fabriqués manuellement. Et je pense qu'il y en a qui avaient trouvé un petit peu le truc. L'EFA, au lieu de faire 35 litres, peut-être qu'il en faisait 34, 33, voire 32. Et donc, il y en a qui avaient des EFA trop petits et qui, de ce fait, flouaient dans les transactions. Ils flouaient les autres. Et c'est pareil avec ce qui suit, avec la balance et les poids qui étaient faux. Là encore, il y a la caricature de l'artisan qui appuie un petit peu sur le plateau pour que l'entrecôte elle soit un petit peu plus lourde. C'est une caricature, mais on l'a parfois entendu. Et là, c'est pareil, dans le commerce, c'était devenu la magouille. Les balances n'étaient pas justes, les poids dans le sac pour peser n'étaient pas justes, et le peuple trempait là-dedans. Et puis il y avait le mensonge, et puis il y avait la violence. Quand on regarde un peu plus loin, chapitre 7, versets 2 à 6, le prophète dit ceci, « L'homme de bien a disparu du pays. Il n'y a plus de juste parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Chacun tend un piège à son frère. Leurs mains sont habiles à faire le mal. Le prince a des exigences. Le juge réclame un salaire. Le grand manifeste son avidité. Et ils font ainsi cause commune. Le meilleur d'entre eux est comme une ronce. » Alors, imaginez ce que devait être le pire. Le meilleur d'entre eux est comme une ronce. Le plus droit, pire qu'un buisson d'épines. Le jour annoncé par tes prophètes, ton châtiment approche. C'est alors qu'ils seront dans la confusion. Ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Car le fils outrage le père, la fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Il y avait une confusion, il y avait une rébellion, il y avait du mensonge, il y avait, je vous en passe, et des meilleurs. Dieu avait été leur sauveur, le libérateur qui les avait fait sortir de l'esclavage d'Égypte. Mais à cette époque-là, manifestement, il n'était plus leur Seigneur. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, ce que l'Éternel demande de nous, c'est que tu pratiques la justice. Alors, pratiquer la justice, nous ne sommes pas appelés tous à devenir des juges ou des avocats, parce que là encore, je ne vais pas m'étendre sur la justice des hommes, mais Dieu nous demande d'être de ceux qui pratiquent la justice de Dieu. On a facile à crier à l'injustice, je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais surtout quand ça nous concerne, c'est trop injuste, c'est pas normal, c'est pas ici et ça. Mais est-ce qu'on est aussi enclin à pratiquer, nous, ce qui est juste ? Et le disciple de Jésus ne doit pas mener une double vie. Nous ne sommes pas disciples juste le dimanche à l'église, mais en tout temps, en tout lieu, là où le Seigneur nous a placés. Que ce soit dans notre famille, qu'elle soit convertie ou pas, que ce soit dans notre voisinage, que ce soit sur notre lieu de travail, que ce soit au lycée, que ce soit à la fac, et on pourrait allonger la liste, Dieu nous appelle à pratiquer ce qui est juste, ce qui est équitable, ce qui est droit aux yeux de Dieu. Et la parole nous dit que la justice et l'équité sont la base de son trône, et ce sont des règles du royaume de Dieu. Et nous ne pouvons pas manifester le royaume de Dieu si nous ne pratiquons pas ces choses-là. Qu'elles soient visibles ou qu'elles soient invisibles. Parce qu'on peut donner le change sur des choses visibles, Mais quand on est dans le secret, quand pour diverses choses, hein, et là encore, on pourrait faire une liste très longue, mais moi, quand je fais ma note de frais toutes les fins de mois pour envoyer à ma direction, bah, y a personne autour de moi. Hein. Je mets ce que je veux. Quand vous faites votre feuille d'impôt, quand vous faites... Enfin, voilà. Mais j'avais cette pensée, parce qu'on a des échelles de valeur, nous, ouais, mais bon, c'est 1 euro, c'est 2 euros, c'est 10 euros, c'est pas grand-chose. Puis de toute façon, hein, le gouvernement, c'est des voleurs. Donc, après tout, je ne fais que voler un voleur. J'exagère. Mais je pensais à des personnes, vous savez, on a parfois entendu parler de procès, de personnes qui ont détourné des sommes colossales et qui ont volé, par détournement de flux bancaires, des petits centimes. Donc certainement que chaque fois qu'ils volaient 5 centimes, ouais, ils se disaient « 5 centimes, c'est pas grand-chose ». Enfin, au bout du compte, ça faisait quand même 10 millions. Mais devant Dieu, l'échelle de valeur, lui, il ne regarde pas au montant, il regarde au cœur. Est-ce que mon cœur est droit devant lui ? Ou est-ce qu'il est un petit peu tortueux ? Et je crois que nous devons nous laisser interpeller par ça. Jésus disait dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, versets 14 à 17, il nous est dit ceci. Jésus s'adresse à Dieu et il dit « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Et il est clair, il est évident que nous ne sommes plus du monde, nous sommes dans le monde, mais nos pratiques doivent donc être différentes de celles du monde. Et l'étalon de ce qui est juste ou ce qui est vrai n'est pas dans le monde. C'est la parole seule qui doit nous guider, qui doit conduire à pratiquer ce qui est juste. Alors, on entend souvent dire, et certains s'en vantent presque, hein, en France, la tricherie, la malhonnêteté, les magouilles, c'est devenu un sport national. Hein, je ne sais pas si vous avez entendu ça, mais c'est une bien triste déclaration. C'est presque la norme pour certains. Et il y en a même certains qui passent plus de temps à chercher comment ne pas se faire prendre plutôt que de chercher à faire le bien. Tout le monde le fait, de toute façon. Ben oui, tout le monde le fait. Et j'ai tendance à dire que quand ça commence comme ça, c'est plutôt mal parti, parce que ça n'est pas parce que tout le monde le fait que c'est juste aux yeux de Dieu. Alors notre boussole indique-t-elle toujours le nord ? Quelle route suivons-nous ? Ce que l'Éternel nous demande, c'est de pratiquer ce qui est juste, de pratiquer sa justice dans les grandes choses, comme dans les petites, dans les choses visibles, comme dans celles qui ne se voient pas, parce que lui voit tout et il voit au cœur. Alors, tout ce qui, là encore, la liste pourrait être longue, mais l'hypocrisie, la dissimulation, le non-respect de la parole donnée, moi, c'est quelque chose qui m'a souvent interpellé. Les gens du monde ont vite fait de donner des paroles, de donner des engagements. « Ouais, 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 t'inquiète pas, je ferai, t'inquiète pas, je viendrai. » Et puis, « Ah ouais, mais j'ai pas pu. » Mais est-ce que ce sont des choses qui ont lieu de citer dans la vie des chrétiens ? Moi, je me suis souvent interrogé sur ma propre vie, parce que c'est facile encore de s'engager verbalement. Mais est-ce que de ne pas respecter un engagement qu'on a donné, eh bien, c'est quelque chose qui n'est pas juste et qui n'est pas équitable. Parce que peut-être qu'on s'est engagé vite fait, vous savez, il y a des personnes qui ne savent pas dire non. Ben, parfois, il faut savoir dire non, parce qu'on peut être sollicité de toute manière, on peut être... Et puis, par bonne intention, oui, oui, je viendrai t'aider, oui, oui, t'inquiète pas, tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi. Eh bien, veillons à ce que réellement on puisse compter sur nous. Veillons à ce que réellement on puisse compter sur nous. Le mensonge, la tromperie, autant de choses qui n'ont pas de place dans la vie des disciples de Jésus. Une des choses que Dieu nous demande également, c'est d'aimer la miséricorde. Alors la miséricorde, c'est un sentiment par lequel la misère des autres touche notre cœur. On pourrait dire que c'est un peu un synonyme de la compassion. C'est vraiment quelque chose, en voyant l'autre souffrir, qui nous émeut au plus profond, qui remue le terme hébreu qui est utilisé, c'était les entrailles, parce que c'est quelque chose qui remue nos tripes, qui ne nous laisse pas indifférents. Et l'Éternel Dieu nous demande d'aimer la miséricorde. La miséricorde doit être un fruit visible de tous lorsque Christ vit en nous. L'apôtre Jean disait dans sa première épître au chapitre 3, verset 14, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. J'évoquais ce passage-là avec les jeunes la semaine dernière. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Et puis il dira un peu plus loin au chapitre 4, versets 7 et 8, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Alors là encore, il ne s'agit pas d'un amour à l'eau de rose, mais je crois que cet amour qui doit être au plus profond de nos cœurs, cette miséricorde, cette compassion que nous devons avoir pour ceux qui souffrent, pour nos frères et sœurs, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. C'est une manifestation visible. « Ah oui, j'aime dans mon cœur, ça ne se voit pas, mais j'aime. Je t'aime, mon frère. » Ben oui, mais la Bible nous dit, si tu vois un malheureux, ben oui, tu peux lui dire « C'est bon, je vais prier pour toi, mais en attendant, il a peut-être faim. Et c'est peut-être plus utile de lui donner un sandwich ou de lui apporter de l'aide. » Et c'est vrai pour les frères et sœurs. Et c'est vrai que « Ah oui, mais j'aime dans mon cœur. » Non, l'amour. L'amour est visible et doit être manifesté. Quand Dieu transforme nos cœurs, quand il opère une transformation dans nos vies, il nous amène à avoir des sentiments nouveaux et on n'est plus centré sur soi-même, mais sur Christ et sur les frères et sœurs. La misère des autres touche-t-elle notre cœur ? La misère morale, la misère spirituelle, la misère matérielle, la misère sociale, notre cœur est-il ému de compassion ? Moi, je suis... vraiment touché quand je vois dans les évangiles le nombre de fois il nous est dit que Jésus fut ému de compassion. Jésus fut ému de compassion. Et bien souvent, je me repens devant Dieu de dire, est-ce que mon cœur s'est pas endurci ? Est-ce qu'on ne finit pas par s'habituer ? Est-ce qu'on ne finit pas par se blinder parce qu'on voit toutes choses à la télé, on voit toutes sortes de choses dans la rue, on voit de la misère, et puis au fil du temps, ben, y a presque une indifférence, voire... Pourquoi pas dévier un petit peu notre trajectoire, notre regard. Seigneur, touche mon cœur, touche mon cœur. Mon cœur est-il encore ému de compassion ? Jésus disait « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. » Ça nous a été rappelé ce matin. « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. » Pas à nous entendre dire « Seigneur, Seigneur ». Non, non. Tous connaîtront que nous sommes ses disciples si nous avons de l'amour les uns pour les autres. La miséricorde doit être un signe distinctif des disciples de Christ. Cet amour qui cherche le bien de l'autre, de manière totalement désintéressée, doit grandir en nous de jour en jour et nous sommes appelés, invités à aimer la miséricorde. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et puis c'est que tu marches, que je marche humblement avec mon Dieu. Alors marcher humblement avec Dieu, il y a deux choses. La première, c'est d'abord de marcher avec Dieu. Humblement, on va le voir après, mais que tu marches humblement avec ton Dieu. Il ne peut pas être envisagé une marche de disciple sans Dieu, ça me paraît évident. Et je me dis pourtant, n'y a-t-il pas encore parfois dans nos vies des chemins, des voies que nous empruntons qui ne sont pas les voies de Dieu. Il y a une différence majeure entre marcher sur le chemin de Dieu, celui qu'il a tracé pour nos vies, et marcher sur notre propre voie en essayant d'embarquer Dieu avec nous, parce qu'on est peut-être parfois un petit peu comme ça. Hein. Voilà, Seigneur, je te remets mes projets, je te remets ma décision, de toute façon elle est déjà prise, donc je te demande de la bénir. Peut-être pas à ce niveau-là, mais parfois presque. Parfois presque. Moi, j'ai constaté dans ma vie, quand on regarde un petit peu pour tirer des enseignements de la vie passée, moi, dans ma vie, ça a été souvent comme ça. C'était souvent comme ça. Et j'ai appris parfois par des chemins difficiles, par l'épreuve. Mais j'ai aussi réalisé que bien souvent, j'avais pris des décisions et des voies qui n'étaient pas les voies de Dieu. Et là, on se rassure par tout un tas de choses. J'ai fait un petit bout de prière, j'ai demandé, j'ai ceci, j'ai cela. Apprenons à lui remettre nos décisions, nos choix, nos orientations. Je vais pas m'étendre ce matin dessus, mais là encore, je partageais avec les jeunes la semaine dernière. Relisez l'histoire de Gédéon dans le livre des Juges. Moi, ça m'a beaucoup parlé ces derniers temps. Relisez l'histoire de Gédéon. L'ange de l'Éternel lui apparaît, quelque chose déjà extraordinaire, pour l'appeler à une mission bien particulière. Ben, vous verrez que même ça, il s'est pas engouffré tout de suite dedans. Et il a cherché, et il a attendu que les choses s'accomplissent, que Dieu manifeste et confirme. Et moi, ça m'a beaucoup parlé. Ça m'a beaucoup parlé. Je vous engage à méditer sur ce texte. Marchons avec Dieu, marchons sur le chemin que Dieu a tracé pour nous. Et puis je me dis que si nous marchons avec Dieu, ça va obligatoirement nous conduire dans l'humilité. Parce que plus je m'approche de lui, plus je suis avec lui, plus je marche du même pas, et plus je réalise en fait que je ne suis rien sans lui. Plus je m'approche de Dieu, et plus j'apprends à le connaître, et plus je vais lâcher prise sur mes propres convictions, pour m'appuyer sur lui et pour m'appuyer sur les convictions que lui me donne. C'est différent, là encore, c'est parfois difficile quand on est face à des décisions, face à des choix, de dire, voilà, le Seigneur met des choses sur mon cœur, et c'est pas simple, ça grandit en nous, mais est-ce que c'est ma pensée, est-ce que c'est celle de Dieu, et plus on va s'approcher de lui, et plus on va être en cœur à cœur avec lui, et plus nos propres convictions, à tout point de vue, vont être confirmées par le plan de Dieu, parce qu'il va mettre, parce qu'il va confirmer dans nos vies. Marcher humblement, c'est accepter de ne pas tout comprendre, de ne pas avoir réponse à tout. Pour ceux qui ont des enfants, ou les papis et mamies qui ont des petits-enfants, moi je me souviens que quasiment les quatre, quand ils ont 3, 4, 5 ans, qui commencent à découvrir la vie, « Papa, pourquoi ? Papa, pourquoi ?» Et les pourquoi, je ne sais pas si c'était propre chez nous, mais en général, les petits, il pose 10 000 questions, pourquoi l'herbe elle est verte, pourquoi les nuages dans le ciel, pourquoi, enfin, la liste, là encore. Alors des fois on répond et puis des fois on est bien embêté. Eh bien, je pense qu'il faut accepter, marcher humblement, c'est d'accepter de ne pas tout comprendre. C'est accepter de ne pas tout comprendre. C'est accepter de mettre en pratique ce qu'on a compris. Et puis c'est dire, ben écoute, là, moi je ne comprends pas bien cette chose-là. Ce passage dans la Bible, j'ai du mal. Eh bien, Seigneur, montre-moi. Cette situation qui s'est passée, cette épreuve, je ne comprends pas, Seigneur, je ne comprends pas. Ne cherchons pas à tout comprendre. Acceptons humblement que les plans de Dieu ne sont pas forcément les nôtres et marchons avec lui. Et puis, en son temps, il nous révélera les choses. Parfois, c'est des années après. Parfois, on n'a pas la réponse. Mais acceptons-le, je crois que ça fait partie aussi de la marche dans l'humilité. Marcher humblement, c'est aussi regarder les autres, nos frères et sœurs, comme étant au-dessus de nous-mêmes. L'apôtre Pierre écrit dans sa première épître au chapitre 5, verset 5, « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humble. Revêtez-vous d'humilité. Philippiens chapitre 2, verset 3, l'apôtre Paul écrit ceci. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité, vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Alors, moi j'ai du mal avec ça. Non. C'est pas toujours facile. Le Seigneur, là encore, c'est une position de cœur. Le Seigneur ne nous demande pas d'être, j'allais dire, des carpettes et de nous laisser marcher dessus, excusez-moi l'expression, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne doit pas avoir des positions, avoir une fermeté dans certaines choses. Ce n'est pas du tout le sujet. Mais regardons les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes, ça veut dire que j'accepte aussi humblement que le Seigneur a fait une œuvre magnifique dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma sœur, qu'il a des dons que je n'ai pas, peut-être pas, et que chacun, c'est le corps bien coordonné, que chacun a un rôle, et que moi, je n'ai pas forcément le rôle et la mission de mon frère, mais ce n'est pas grave. S'il m'a donné le Seigneur ce rôle-là, alors je vais l'accomplir de tout mon cœur, bien humblement, avec la force et les capacités qu'il va me donner, et c'est ça, regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Et je me faisais cette réflexion, Si ce verset était appliqué à la lettre dans toutes les églises, mais il n'y aurait plus de division. Il n'y aurait plus d'église qui vole en éclats. Il n'y aurait plus « moi, je pense que c'est mieux, moi, je pense qu'il faut faire comme ça ». Alors, là encore, on n'est pas dans la pensée unique et de dire « il y a un pasteur, il y a des anciens, ils pensent, il faut que tout le monde pense pareil, il faut… » Non, 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 la pensée unique, elle est là. Ce qui doit nous guider, c'est là. On peut avoir des échanges, on peut avoir des points de vue, on peut avoir des partages, mais si je regarde les autres comme étant au-dessus de moi-même, alors je vais accepter aussi que la vie de l'autre, il a peut-être autant d'importance ou plus d'importance que le mien. Et ça va me faire marcher et grandir avec mes frères et sœurs, et ça va consolider ces liens du corps dont Dieu veut l'unité. Être humble signifie être conscient de ses faiblesses, reconnaître le mérite de Dieu dans ce que nous accomplissons. Jésus nous a donné lui-même l'exemple. Jean chapitre 5, verset 19, Jésus reprit la parole et leur dit « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Nous devons rester humbles parce que nous sommes des créatures qui, en dehors de Christ, se trouvent sous l'emprise du péché. Nous n'étions et nous ne sommes pas meilleurs les uns que les autres. Nous sommes tous condamnés par notre péché. Et ce que nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas par nos mérites, c'est par la grâce en Jésus-Christ. Et nous n'avons pas sujet de nous glorifier de cela. Marcher humblement, c'est reconnaître que tout ne va pas forcément toujours très bien dans notre vie et que nous avons besoin des autres. Ce n'est pas l'humilité et une situation là aussi de cœur. Ce n'est pas montrer... Ce n'est pas arriver tous les dimanches, tous les mardis, toutes les réunions en disant « ouais, non, ça ne va pas, non, moi je suis humble, moi je suis humble ». Non, non, c'est être vrai. C'est être vrai. L'humilité, ça n'est rien d'autre que d'être vrai, de tomber le masque, de ne pas faire croire, de ne pas donner une façade, une image, tout va bien, gloire à Dieu, c'est merveilleux. Ben oui, c'est merveilleux, gloire à Dieu, mais sauf que des fois, ça ne va pas toujours si bien que ça. Et marcher humblement, ben, c'est le reconnaître. Alors pas forcément publiquement, mais c'est d'être en capacité, d'avoir le courage, pardon, parce que parfois il le faut, d'aller voir un frère, d'aller voir une sœur, de dire « écoute, je veux partager quelque chose avec toi. Ça va pas. J'ai des combats, j'ai des soucis, je passe par un moment difficile, j'ai des doutes, j'ai des choses qui n'avancent pas dans ma vie. » La marche avec Dieu ne nous dispense pas de la vie d'Église et de la communion fraternelle. C'est Dieu lui-même qui a institué l'Église. Bien évidemment, pas le bâtiment, même s'il est agréable, même s'il est beau, l'Église, les pierres vivantes, le rassemblement des frères et sœurs, tous rachetés par le même Sauveur. Et c'est là aussi que toute l'Église prend aussi son sens. Il faut de l'humilité, oui, pour aller voir un frère ou une sœur, lui dire que ça ne va pas, mais c'est tellement bénéfique. Ça soulage tellement, ça fait tellement de bien, et on est encouragé, et on prie ensemble, et on repart, on reprend des forces. Dieu demeure avec ceux qui marchent humblement. Ésaïe écrivait au chapitre 57, verset 15, « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. » Et puis Jacques écrivait au chapitre 4, verset 6 de son épître, « Dieu accorde au contraire une grâce plus excellente. » Vous voulez une grâce plus excellente? Nous avons tous le salut par grâce. La grâce, elle est pour tous. Mais il est question ici d'une grâce encore plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » L'orgueil est l'opposé de l'humilité. Et tant qu'il y a de l'orgueil, Dieu résiste parce qu'il ne peut pas prendre la main. L'orgueil, c'est moi qui fais, c'est moi qui suis fort, c'est moi qui suis beau, c'est moi qui suis. Ben oui, ben tant que c'est moi, le Seigneur, il attend. Et l'orgueil est l'opposé de l'humilité. C'est un sentiment de supériorité que nous devons rejeter dans nos vies. Sentiment qui est incompatible avec la marche avec Dieu. Et Jésus disait lui-même dans Matthieu chapitre 23, verset 11, « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. » Là encore, l'échelle de valeur des hommes n'est pas la même que celle de Dieu. Tu veux être le plus grand? Eh bien oui, ben, sois le serviteur de tous. Sois le serviteur de tous. Quiconque s'élèvera sera abaissé, quiconque s'abaissera sera élevé. Alors voici quelques pistes que le Seigneur nous a laissées, que le Seigneur a mis sur mon cœur pour ma propre vie, pour que nous cherchions à pratiquer sa volonté. Ce que l'Éternel demande de nous, c'est que nous pratiquions la justice, que nous aimions la miséricorde et que nous marchions humblement avec notre Dieu. Alors, souvenons-nous que ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur », comme disent certains, ce ne sont pas les diseux, mais les faiseux. Hein, ouais, ça parle à certains, ben ouais. Même parfois le monde a des expressions qu'on retrouve. Ouais, ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur ». Tous n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté du Père qui est dans les cieux. Alors, que nos cœurs soient attentifs à la volonté de Dieu, que nous empressions de l'appliquer quand le Saint-Esprit nous montre les choses qui doivent être réglées pour que nous ne perdions pas de temps et que le Seigneur puisse agir dans nos vies. Amen. Je te rends grâce, Seigneur, parce que c'est vrai que tu es le même éternellement. Nous l'avons encore entendu ce matin, tu ne changes pas.